L'été 2013, ça fait 6-7 mois que j'ai ces douleurs. Et cet été-là, c'est le mois d'août 2013, je suis en vacances. Et c'est vraiment insupportable. C'est-à-dire que j'en peux plus, quoi. Et là, j'ai compris un moment. Je comprends le lien avec le passé.
Quand dans sa vie on a connu une déflagration, on sait qu'on va être confronté à un choix. Continuer à vivre ou pas. Et puis une fois ce plouf-plouf morbide tranché, continuer à vivre, d'accord. Mais comment? Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air. Et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va bien se passer. Bonjour Adrien.
Bonjour, ça va.
Tu vas bien?
Très bien jusque-là.
Ça va bien se passer.
J'en doute pas.
Est-ce que tu peux me raconter un peu quel genre de jeune homme t'étais? Quelle étude t'as fait? Quelle voie t'as choisi?
Je suis un jeune homme très rangé, sans éclat particulier, sans volonté d'éclat. C'est-à-dire que j'ai des copains qui sont tout aussi rangés que moi. Quand on doit sortir en boîte de nuit, c'est un événement qu'on planifie 6 mois à l'avance parce qu'on a toujours peur de pas pouvoir rentrer et on se demande un peu ce qu'on va faire là-bas. Je suis un garçon qui se laisse complètement porter. Je suis ce jeune homme-là qui se laisse un peu comme ça mener, qui avance. Disons les choses, je suis pas serein pour autant. Je sais pas dire pourquoi, je sais pas dire comment, mais je suis pas serein. Tout m'effraie un peu, tout me fait un peu peur. Un jour, je me souviens, je suis là, je suis assis sur des marches et je discute avec une fille qui a une amie. Et je lui dis, je ne sais pourquoi, que je me sens lesté. Comme si j'avais des chaînes aux pieds, des boulets aux pieds, à la manière d'un ancien, d'un prisonnier un peu à l'ancienne. Comme ça. Je me souviens de lui dire ça et de conserver cette image longtemps, des chaînes aux pieds. Alors, le vent dans le dos, plus les chaînes aux pieds, j'aime autant te dire qu'il faut que ça souffle un peu fort pour que vraiment ça progresse. Mais ça progresse qu'à comme ça. Et puis après une maîtrise d'histoire à Nanterre, on me dit ça y est, tu vas passer le CAPES ou la grègue.
Ouais.
Et là j'ai quand même
un sursaut.
Ouais. Et là, un moment de panique et j'interromps mes études. Ça me ressemble pas vraiment ça. À un moment dire stop.
Et tu fais quoi cette année-là?
Je me morfonds beaucoup, vraiment. Et puis quand même, j'entreprends un truc. Je me lance dans une association où j'accompagne qui s'appelle La Fève. Allez, je crois qu'elle n'existe plus. C'est l'association française des étudiants dans la ville. J'aimais bien ce terme. En gros, on accompagnait des jeunes en soutien scolaire.
Okay.
Ni plus ni moins que cela. Et je me souviens d'avoir aidé quelques garçons, mais beaucoup de garçons, avec les mots et la lecture.
C'est quand même pas loin de l'enseignement, même si c'est pas la même
ouais,
chose.
Ouais, mais... c'est dire le niveau de contradiction du garçon qui
t'as
se dit surtout
trop.
Pas enseignant. Et la première chose que je vais faire après avoir arrêté mes études, c'est accompagner des jeunes pour les soutenir sur le plan scolaire. Tout ça pour me dire que mes parents finissent par me dire quand même, on connaît une femme qui est chasseuse de tête, elle va t'aider, elle va te dire ce qu'il faut que tu fasses, elle va te guider, etc. Toujours, le dernier qui parle a raison, cette dame me dit, il faut que tu passes les écoles de journalisme. Ok. Je pense que si elle m'avait dit, deviens boulanger, je devenais boulanger, elle m'a dit, école de journalisme, je passe donc les écoles de journalisme. Et là, s'ouvre à moi forcément maintenant quelque chose de beaucoup plus concret.
Ouais.
Je vais devenir journaliste. Et là, ça me permet deux choses. ça me permet d'abord de quitter la région parisienne où j'ai grandi, et ça me fait quand même du bien. Et ça me permet de découvrir la radio, qui est extraordinaire. J'ai un coup de foudre pour la radio, parce qu'on s'appuie sur les mots, uniquement les mots, la voix certes, et
comme ça on te regarde pas.
Comme ça on me regarde pas et on m'écoute et on peut raconter des histoires. Et je trouve que ça fait quand même beaucoup de choses assez cool à faire et c'est un vrai coup de foudre. C'est un vrai coup de foudre. Et puis il y a évidemment autre chose, c'est que je rencontre mon épouse.
Tu la rencontres quand, ta femme?
Je la rencontre en 2004. Nous sommes en première année d'école de journalisme.
Ok.
Nous allons formellement commencer les choses, si je puis dire, une semaine avant la fin de notre école.
Ah ouais, donc deux vous êtes devenus copains avant.
Voilà. Et selon un processus compliqué.
Pourquoi?
Parce que je suis très compliqué. Parce que vraiment, en fait, en réalité, d'abord la perspective de rentrer dans la vie professionnelle, et cette école est très professionnalisante, enfin voilà, on est là, on est dans des rédactions, etc., etc., c'est très, là, soudainement, la vie commence, hein.
Ouais.
Je découvre aussi, par ailleurs, les rédactions de journalistes.
Et t'aimes cette ambiance?
C'est dur. C'est pas que j'aime pas l'ambiance, parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez chaleureux dans la vie, etc. Simplement, il faut se faire une place, hein. Et la parole, il faut la prendre, il faut s'en emparer, et puis il faut plus la lâcher, etc., etc. Tout est une affaire de caractère. J'ai l'impression qu'il y a que des gros caractères. Et je me dis, je vais jamais m'imposer là-dedans. Je ne vais jamais parvenir à me faire la place. Et puis il y a cette lumière rouge qui s'allume quand je suis en studio, et là je laisserai ma place pour rien au monde, donc je me raccroche à ces moments là mais il y a tous les à côté qui me sont pénibles, vraiment qui me sont pénibles. Or le métier de journaliste, c'est tout sauf ça. Donc je vis avec cette ambivalence, je suis dans ce contraste tout le temps. Il faut l'accepter, et j'ai du mal à être moi-même dans cet univers là
Et donc, vous êtes en couple, vous êtes heureux, vous travaillez tous les deux, la vie est belle.
On est en couple, on travaille tous les deux, moi je travaille à RTL, Noémie travaille à Europe 1.
Ouais. C'est la compète.
C'est la compète, le rouge contre le bleu. On a un petit appartement dans le 14e, tout petit, avec des problèmes d'humidité sur les murs, mais franchement c'est merveilleux. C'est compliqué, cette formule, on a tout pour être heureux. Parce que régulièrement, factuellement, oui. On se le dit, on pourrait faire des listes. Régulièrement, je dis, il faut faire des listes. Je ne fais jamais de listes. Pour se prouver que tout va bien.
Pour se rassurer.
Pour se rassurer, pour se dire, c'est écrit là, je fais une liste. Il y a marqué dans les colonnes plus plein de choses qui nous tiennent objectivement en situation du tout va bien. Et il y a quelque chose qui va pas bien. Alors, c'est la vie professionnelle, alors c'est les relations aux parents, alors c'est peut-être à un moment un couple qui, notre couple qui a peut-être des modes de dysfonctionnement. Enfin, il y a toujours une bonne raison qui prouve que ça va pas.
Qu'est-ce qu'elle en pense, ta femme?
Elle en pense que je suis compliqué. Ce qui est d'une phrase que je vais entendre souvent et que j'entends souvent. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que bon, tout le monde est compliqué à sa manière. Voilà. Chez moi, ça peut prendre un tour aigu. Très aigu.
Tu vas voir quelqu'un?
Oui. Je vais voir quelqu'un, comme on dit. Je me fais suivre, comme on dit. Et un jour, mon épouse me dit, t'embobines même ta psychiatre. Mais c'est le sentiment qu'elle a, c'est que je dis pas tout.
Ouais.
Et c'est pas que je ne dis pas tout, c'est que je dis ce qui me passe par la tête et ce qui me semble être la vérité au moment où on se trouve. C'est tout. C'est aussi simple que ça.
Et ta femme, elle pense qu'il y a quelque chose que tu dis pas, ou elle est juste saoulée parce qu'elle voudrait être heureuse parce que tout va bien?
C'est la deuxième réponse. Je pense qu'elle est... Non, pourquoi penser que je cache des choses? Je cache rien. Je cache rien du tout. Je suis ce que je suis. Alors après, si tu creuses, tu trouves. Tu trouves une relation compliquée avec la famille, avec les parents. Tu trouves des explications, etc., etc. Tu peux assez facilement établir des liens de cause à effet. C'est ce que j'arrive à faire. Très bien. Sauf que je passe mon temps à établir des liens de cause à effet et que je constate quand même que ça s'arrange que très, très, très petitement. Et il y a des moments aigus, il y a des moments, à un moment où ça va pas du tout. Vraiment. Où je le dis, hein, je suis hospitalisé. Voilà. Parce que ça va pas. Vraiment.
Mais tu sais pas dire ce qui va pas.
Je trouve une explication. C'est toujours pareil. À force de d'être replié sur soi, parce que c'est un peu ça, des explications, on peut en trouver plein. Et j'en trouve. Voilà. Donc je suis un très très bon, je suis un trouveur d'explications. Si ce métier existait, je pourrais tout à fait afficher le diplôme.
Moi, je t'ai connu à la télé. Comment t'arrives à la télé?
Par hasard. J'arrive à la télé parce que on me propose. Moi, je suis à l'époque matinalier en radio, c'est-à-dire que je me lève à 1h15 du matin. Ça fait 8 ans que je fais ça à l'époque. Je suis rincé. Je suis toujours pas plus serein que ça. Et cette occasion se présente, et ça tombe bien, si je puis dire, parce que je suis en train de me séparer. Et qu'il va falloir trouver un système pour que je puisse avoir la garde partagée. Et ça, pour un matinalier, c'est impossible d'avoir chez soi la moitié de la semaine sa fille, en étant réveillé aussitôt. Et c'est comme ça qu'on me propose la télévision. Et c'est vraiment, je le vis comme, certes, donc une opportunité, et puis comme un moment assez étonnant parce que c'est du théâtre, quoi. Ça m'amuse beaucoup.
Donc tu regardes, mais t'es un peu extérieur, quoi.
Oui.
À cette époque dans ta vie, t'as un autre souci qui s'est révélé. Est-ce que tu veux en expliquer ce qui se passe?
Je parle de l'absence de sérénité qui finit par prendre une forme physique. J'ai 31 ans, ma fille est née depuis quelques mois et alors je suis fatigué parce que je suis matinalier et que je me lève tôt, certes, mais mes jambes commence à me jouer des tours. C'est tout à fait inexplicable. Ça se passe dans les moments où j'ai l'occasion de faire des nuits normales. Je le précise parce que je me lève donc à 1h15 du matin et que systématiquement, vers 2h du matin, mes jambes, quand je fais une nuit normale, hein, j'entends, commencent à me démanger de l'intérieur. Alors d'abord, je me dis, c'est ton corps qui est tellement habitué à se lever à 1h15, 2h, qui te signifie qu'il faut que tu te mettes en action. Vous voyez, trouveur de solutions. J'analyse tout seul dans mon coin, et je me dis, c'est tout à fait normal, tes jambes te démangent parce que tu devrais te lever. Bon, je vois bien que ça tient pas la route, mon affaire. J'en parle avec un sourire, mais ce sont des vraies souffrances. C'est-à-dire, j'ai l'impression, c'est un mélange entre des impatiences, ce qu'on appelle les impatiences, et le sentiment de comme si des fourmis étaient à l'intérieur de mon corps, de brûlures. Je passe des longues minutes sous la douche froide où j'arrose mes jambes, ou sous la douche chaude, je prends des antidouleurs. Enfin, j'essaye tout. Mes jambes me brûlent. Vraiment. Je suis obligé de me lever et je ne trouve pas d'explication.
Tu vas voir des médecins?
Ouais. Je vais voir des médecins. On me donne des trucs pour me détendre. Je me masse les jambes avec des crèmes décontractantes. J'évite toute surstimulation avant de me coucher, du genre à faire un marathon avant de dormir. Mais sur ce point, il n'y avait pas trop de risques. Mais je suis dans l'hyper, dans l'hyper incertitude face à ce truc. Sauf que je ne me dis jamais, oh là là, c'est une maladie grave.
Tu dis pas j'ai un problème.
Non, à aucun moment je me dis qu'est-ce qui m'arrive, ça y est, il va falloir que on m'ampute des jambes. Pardon d'être mais je suis capable de raisonner comme ça souvent dès que j'ai un truc de travers. Là, jamais.
OK.
C'est troublant d'ailleurs. Je cherche pas une analyse médicale et je m'inquiète pas des conséquences médicales directement liées aux jambes. Mais quand même, je me dis il y a un truc qui va pas. Voilà. Mais comme il y a un truc qui va pas depuis si longtemps, j'apprends un peu à vivre avec, sauf que ça dure.
Est-ce qu'à un moment tu te dis que c'est psychologique ou ça te traverse pas l'esprit?
Il y a un moment où je me dis, est-ce que ça te rappelle quelque chose? Est-ce que cette douleur, tu l'as déjà ressentie? Et je n'arrive pas à conclure quand je m'interroge. J'arrive pas à dire oui ou non. Je ne suis pas définitif, je ne suis pas catégorique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que oui, qu'il y a quelque chose qui est comparable dans le passé, et pour autant, n'arrivant pas à mettre un doigt précisément sur ce à quoi je pense, je me dis c'est une construction de l'esprit. Donc je suis, oui, dans un sentiment de problème psychologique, mais pas plus que le sentiment. Est-ce que je suis clair quand je dis ça? Je sais pas.
Si, c'est très clair. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est que c'est pas du tout une question banale à se poser. C'est que t'as un début de commencement de remonter à la surface de quelque chose.
Oui. À un moment, je me résous à vivre avec ça. Aussi bêtement que ça. Comme si il fallait se résoudre à boiter. Par ailleurs, toujours dans ce rapport à l'extérieur, c'est une des sensations que je raconte très très peu. D'abord parce qu'en journée, si ce n'est la fatigue, rien ne se manifeste. Donc je vis pas avec ça au quotidien, enfin au sens chaque minute. C'est uniquement la nuit. Donc je partage pas ça. Et je finis par m'y résoudre, voilà. Je peux pas dire les choses autrement. Et par essayer de ne pas m'interroger, c'est faire fausse route. Parce qu'à un moment, ça me rattrape.
Et ça te rattrape quand?
Ça me rattrape l'été 2013. Ça fait 6-7 mois que j'ai ces douleurs. Et cet été-là, c'est le mois d'août. C'est le mois d'août 2013, je suis en vacances. Et c'est vraiment insupportable. C'est-à-dire que j'en peux plus, quoi. Et là, j'ai compris un moment. Je comprends le lien avec le passé. Je comprends le lien avec le passé. Je sais pourquoi j'ai mal aux jambes. Et j'ai mal aux jambes parce que c'est par là que tout a commencé. J'ai mal aux jambes parce que c'est comme ça qu'un moniteur de colonie de vacances s'en est pris à moi. Il a commencé comme ça. Et j'avais oublié. Et je me souviens, le mois d'août 2013. Pas d'un coup. Mais par à-coup, je finis par réaliser que j'ai subi une agression sexuelle quand je n'avais que 13 ans. Il s'est écoulé une vingtaine d'années entre les deux. Et entre les deux, j'avais oublié. Et je commence à me souvenir, sans le réaliser, avec ces douleurs aux jambes, Et je finis par avoir, enfin, au bout de quelques mois, la photo complète. C'est, j'ai été agressé et j'avais oublié. Bon.
Tu le dis à qui en premier ?
Je suis, c'est le soir de ce mois d'août 2013 et je le dis à mon épouse. Et je lui fais promettre, je lui dis, ne le répète pas, ne le raconte pas. Je ne veux pas, à ce stade, que quiconque soit au courant.
Donc tu refermes tout de suite là.
Je vais rouvrir, de nouveau ouvrir la porte, une semaine, 15 jours après, auprès de mon meilleur ami, et auprès de la personne qui me suit, la psychiatre qui me suit. Ça s'est joué en 15 jours, 3 semaines, toujours ce mois d'août 2013, et je vais refermer la porte, c'est-à-dire que plus personne n'en entendra parler, pendant encore 3 ans.
Et t'as pas eu envie d'en parler avec ta psy, que ce soit, enfin, c'est comme si t'avais trouvé un peu la clé qui pouvait dénouer tous les nœuds, quoi.
Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai le sentiment que c'est pas si grave. Et ça n'a aucun sens de dire ce n'est pas si grave. Je le dis juste parce que ça commence à bousiller ma vie. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout un effet libérateur. Ça, c'est le grand truc autour de la libération de la parole, et je suis le premier à me vautrer dedans, hein, parfois. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce que soudainement, je me mets à formuler que ça règle quelque chose. Au contraire, ça ouvre tout un espace de complexité et de détresse. Sauf que j'estime que il faut que j'en parle le moins possible. C'est comme complètement paradoxal. Et j'ajoute une équation insoluble pour mon épouse, c'est que je lui dis quand elle m'en parle pas, tu pourrais quand même m'en parler, et quand elle m'en parle, tu pourrais quand même arrêter de m'en parler. Ça tient pas.
Ça tient tellement pas que.
Bah ça tient
qu'elle
pas.
Qu'elle s'en va, quoi.
Ouais. Un an après.
C'est devenu un sujet sensible pour toi, si tu fais des interviews, des rencontres, c'est un truc que tu te sens concerné particulièrement ou tu le mets à distance tellement que ça t'ébranle pas?
Ce qui m'est arrivé,
ouais.
Quand j'étais enfant,
ouais.
J'ai fini par faire un livre de ça quand même, parce que j'étais prêt. Je crois que tout est une affaire de tempo, quoi. Aujourd'hui, c'est un sujet sensible, c'est un sujet douloureux, mais c'est un sujet que j'aborde avec un sentiment assez combatif.
En fait, je voulais que tu me racontes la fois où t'as envoyé un message sur Facebook.
On est en 2015. Moi, ça fait donc 2 ans que tout est remonté à la surface et que j'en ai si peu parlé. Je vis avec le fait d'avoir été agressé quand j'étais enfant. Je vis avec ça, personne ne le sait, et c'est un sujet qui arrive dans l'actualité, et c'est mon métier, l'actualité. Et on me dit, tu vas interviewer une victime du père Prénat, église de Lyon, père Prénat notamment couvert par Monseigneur Barbarin. Des hommes prennent la parole, s'attaquent à l'institution pour raconter ce qu'ils ont vécu enfant. Et alors moi, je suis dans un sentiment d'aplomb. Comme on m'aurait dit, tu fais l'interview de n'importe qui d'autre, sur n'importe quel thème. Pas de problème. C'est mon travail, c'est mon métier. Et j'interview notamment un monsieur qui raconte ce qu'il a subi et le combat qu'il a décidé de mener. Et je rentre chez moi. C'est le milieu de l'après-midi. Et je mesure soudainement que ça m'a bouleversé d'entendre ce monsieur parler des agressions qu'il a vécues enfant par un prêtre. Ça m'a bouleversé. Ça m'a Je suis malmené par ce qu'il a dit. Et je décide d'écrire un texte. Et j'écris en disant, il est temps de parler autour de tous ces sujets d'agression. Il est temps de raconter. Et moi, voilà ce qui m'est arrivé. Et à l'époque, j'ai pas parlé et j'ai oublié. Voilà, ça doit faire une vingtaine de lignes. C'est très court. J'imprime le texte. Et puis, il s'écoule 2 mois, 3 mois. Et de nouveau, un matin, on me dit, tu vas interviewer quelqu'un parce que le procès va commencer. Un homme qui a été victime du père Prénat. Le procès va commencer. Donc, tu l'as en duplex dans ton émission, etc. Rebelote. Et je rentre chez moi. Et je suis de nouveau secoué. Très secoué. Et je suis en réalité, cette fois, non pas dans une situation, je disais tout à l'heure, je suis malmené. Je suis pas malmené là. Là, je suis admiratif. J'ai changé de sentiment. Admiratif du courage de ces hommes. Parce que c'est un long chemin qu'ils font. Et que c'est pas simple, j'imagine, d'être un homme et de dire j'ai été agressé quand j'étais un enfant. Je mesure, je sais que c'est pas simple. La preuve, moi, quand j'en ai pris conscience, j'ai été capable de le raconter qu'à 2 personnes. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour leur courage. Et là, il se passe que me traverse l'esprit, j'ai idée de génie, vraiment, remarquable. Juste avant de partir à un cours de théâtre, parce que je me suis mis à faire du théâtre, j'ai fait du théâtre pendant un an, je fais du théâtre, là, voilà, c'est un lundi soir. On est en 2015, et je publie ça sur Facebook. À l'ancienne, hein. quand je dis ça, je publie le texte que j'avais écrit 3 mois auparavant. Le même texte. J'ai rien retouché, et je le mets sur Facebook. Et je pars au théâtre. J'oublie plusieurs choses là, à ce moment-là. Et j'oublie d'abord que jusque-là, j'en ai parlé qu'à 2 personnes. Si j'exclus le médecin qui me suit. À 2 personnes. Et que là, je mets ça sur les réseaux sociaux. Je suis totalement irresponsable. Je suis irresponsable. Et je pars au théâtre. Pendant 3 heures. Portable éteint, etc. Quand je rallume mon portable 3 heures après, c'est un peu le chaos. Et j'avais pas réalisé. Et il y a un ami, un bon ami, Pierre, qui est en bas de chez moi. Parce que il a lu le texte, il est tombé des nues. Il a lu ce texte où je raconte que j'ai été victime d'un pédocriminel. Et que j'estime qu'il faut parler. Qu'il faut raconter, qu'il faut prendre la parole. Et que... je le fais aujourd'hui et j'aurais dû le faire avant sans doute, mais que maintenant il faut plus se taire. C'est en substance ce qu'il y a dans ce texte. Je me souviens plus exactement. Et mes amis tombent des nues parce qu'ils découvrent ça et parce qu'ils s'inquiètent de mon silence dans la foulée. Et c'est là que je suis irresponsable parce qu'on n'est jamais maître de ce que les autres vont ressentir pour vous. Et ils ont ressenti pour moi de la peur, d'abord, je pense. C'est-à-dire, raconter ça, et ensuite éteindre mon portable, c'était comme des signaux d'alerte. Ça n'était pas du tout ça. Et là commence une autre étape.
Et tes parents ?
Mes parents, je ne leur en avais jamais parlé jusque-là. Je sais donc, depuis 2 ans... Et je ne leur en ai pas parlé. Je leur en ai pas parlé parce que je suis très inquiet à l'idée que ça leur fasse de la peine pendant longtemps. Et que j'estime qu'ils n'y sont pour rien. Ça, c'est un sentiment que j'ai tout de suite. Et donc, j'ose pas leur dire, je veux pas leur dire. Mais là, je l'ai rendu public et je leur ai toujours pas dit. Et je le réalise que très tardivement. Ce soir-là, je réalise que j'ai rendu un message public sur les réseaux sociaux et que j'ai omis de le raconter à mes propres parents. Et je vais leur faire un mail cette nuit-là, Bon, ils vont découvrir ce soir qu'ils ont été informés un peu après les autres. Aujourd'hui, ils vont apprendre qu'ils ont été informés un peu après les autres, mais je pense que c'est pas grave. Et je leur ai expliqué pourquoi je m'étais tu, je leur ai expliqué ce qui s'était passé, et je leur ai expliqué que, à l'occasion, on pourrait en parler de vive voix, mais que, à ce stade, je voulais pas trop. Voilà. Parce que ce que j'avais pas compris, c'est qu'à partir du moment où je rendais ça public, certains auraient envie de m'interroger là-dessus. Auraient envie de m'en parler.
Bien sûr. Tes collègues d'abord?
Mes collègues. Mes amis. Irresponsable, je dis. Parce que... Et je reviens sur l'ambivalence. J'avais pas forcément envie d'en parler. Ça n'a aucun sens.
Donc, tu fais sans arrêt des allers-retours entre l'ombre et la lumière, quoi.
Exactement. Exactement. Porte ouverte, porte fermée. Ombre, lumière. Ça n'arrête pas. On est en 2015. Je veux juste te dire que j'ai souffert du silence. Moi. Ce que je suis. J'ai souffert du silence qui s'est imposé à moi. Parfois que j'ai choisi, etc., etc., et que j'aimerais que ceux qui ont l'occasion de parler, ou ceux qui ont envie de parler, on leur laisse une opportunité de le faire. Et puis c'est tout ce que je veux dire. Je veux rien dire d'autre. Et d'ailleurs, le lendemain, le message, je réalise qu'il a pris qu'il y a eu un peu d'écho.
Il y a eu un écho monstrueux.
Oui, à mon échelle, il y a eu un gros écho. Il y a un article dans Le Parisien, et je suis appelé par beaucoup de gens pour faire des émissions, pour participer à des émissions. On me propose de faire mon portrait pour Libé. On me propose Marc-Olivier Fogiel m'appelle. Enfin voilà, et je refuse tout. Ce que j'avais à dire, ça tenait en 20 lignes. Je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Je peux rien dire de plus. J'ai rien d'autre à dire, en fait. J'ai rien d'autre à dire d'intéressant, me semble-t-il. Je ne parviens pas à formuler autre chose.
Tu restes pas à la télé très longtemps après ça. Mais ton départ est pas si cool que ça, en fait.
En fait, il se passe plusieurs épisodes à ce moment-là qui n'ont rien à voir avec tout ça. Et un jour, sur une des entreprises dans laquelle je travaille, les ressources humaines m'ont convoqué pour me proposer un troc. Je suis dans ce bureau face à un homme que j'ai jamais vu. Le bureau est pas un bureau qui est occupé. Parce que je dis ça parce que c'est quelqu'un des ressources humaines, mais qui vient d'une autre entité, qui a été envoyé, et on est installé dans un bureau, là, comme ça, qui est vide.
Donc c'est très chaleureux comme moment.
C'est très chaleureux. Ça va durer, je pense, 4 minutes. Et l'objet du troc est le suivant. Puisque l'un des salariés de l'entreprise a des ennuis avec la justice pour des affaires d'agression sexuelle visant des enfants... C'est pour vous un cas de conscience. Voilà ce qui m'est présenté. Je n'ai jamais brandi ma confiance devant qui que ce soit. C'est pour vous un cas de conscience. Ce cas de conscience, on l'a estimé à tant d'euros par mois d'ancienneté. Et pour éviter que votre conscience ne soit trop pesante, voilà donc une proposition de chèque de tant d'euros pour que vous acceptiez de partir. Et comme ça, il n'y a plus de problème pour vous et pour nous. Et je me dis, donc, ma conscience vaut...
Donne pas de montant.
Quelques petits euros. Je suis abasourdi. Et on me dit, ce monsieur dit, je pars quelques jours à l'étranger, à mon retour, vous m'appelez, 3 jours après, c'est le rendez-vous qui est fixé, vous m'appelez pour me dire, voilà. C'est une belle occasion, c'est une belle opportunité, et ça permet, ajoute-t-il, que tout le monde se sente bien.
Je savais pas que je me sentais mal.
déjà, et je suis pas sûr de me sentir mieux après. Mm. Bon, c'est de l'argent qui brûle les doigts, c'est de l'argent que j'ai refusé. Je le dis tout de suite. Et j'ajoute que j'ai rien demandé. Je n'ai pas demandé, enfin,
En fait, ils ont eu peur de toi.
Ouais, ils ont eu peur de moi, de... Ça, c'est un truc, quand on raconte ce que j'ai, moi, vécu, mais c'est vrai de beaucoup de situations, on a traversé une souffrance puissante. Il y a quelque chose, on devient un peu, et c'est le sentiment que j'ai, radioactif. Je commence et je réalise que je suis radioactif. Et donc, en fait, c'est perdant-perdant. C'est-à-dire que non seulement, moi, je vis avec ça, et en plus, on me le fait payer encore aujourd'hui. C'est ça que j'ai ressenti, moi. Pas plus. Donc, franchement, le sac à dos, déjà qu'il est lourd, là, il s'alourdit encore un peu plus. Et c'est il y a un truc un peu insurmontable là-dedans. Et quand je dis que à partir du moment où tout est remonté à la surface pour moi, j'ai commencé et continué à creuser pendant quelques temps, ça a participé de cet enlisement qui était le mien.
Tes jambes, ça s'est arrêté dès que tu t'en es souvenu ?
Oui.
C'est incroyable.
Bah, maintenant que mes jambes m'avaient foutu la paix, ma tête prenait le relais. C'était bien, c'était une espèce de coopération. Mais les jambes se sont arrêtées. Les jambes avaient fait leur boulot.
Ouais.
Elles participaient de la réanimation des souvenirs.
Est-ce que tu as cherché à retrouver ton agresseur pour aller le mettre devant ses responsabilités ou pour aller le tabasser ou je sais pas quoi ?
Je n'ai jamais cherché l'agresseur. Je n'ai jamais cherché à le retrouver. Je n'ai jamais cherché à l'identifier. Je n'ai jamais cherché vengeance. Je trahis pas de secret en disant que pour beaucoup, je pense que ça a été un point d'incompréhension. On m'a dit, il faut que tu portes plainte. Il faut que tu réagisses. Il faut que tu fasses quelque chose. Ce type-là, était pas le sujet. Alors je sais que ça peut paraître complètement fou de dire ça, mais ce n'est pas le sujet. Pour moi, je ne voulais plus qu'il soit au centre de tout, comme si, même si longtemps après, il pouvait encore avoir la main sur quelque chose. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que je sais pas si je m'en voulais de m'être tu, parce qu'encore une fois, j'ai pas choisi de me taire pendant longtemps. J'ai pas choisi ça. Mais si j'avais appris que le gars prédateur qu'il était, il avait encore sévi pendant longtemps après moi, ça m'aurait, j'aurais trouvé ça très dur.
Enfin, c'était pas ton job.
Non, c'était pas mon job de l'arrêter.
Ouais.
Peut-être que ça aurait été mon job de parler à l'époque. Mais enfin, bon, j'étais un gamin, j'avais 13 ans. Bon, je sais pas. En tout cas, c'est ce qui est fou. Ou pas, d'ailleurs. C'est que ça n'a pas été...
T'as pas cherché vengeance.
Ouais, non. Ça changera peut-être. Hein.
T'as pas parlé à l'époque, mais à l'époque, il y a un adulte qui sent quelque chose, mais tu sais pas exactement ce que c'est, mais tu sens qu'il essaie de te donner une opportunité de parler.
Est-ce que je peux raconter un peu le contexte ?
Bien sûr.
On est l'été 1994. Et je pars tous les étés. Et quasiment à toutes les vacances scolaires en colo. C'est mon monde. Je connais ça par cœur. Au début, c'est difficile. Et puis après, ça va. C'est donc là qu'un moniteur s'en prend à moi. Il s'en prend à moi tous les matins. En rentrant dans ma chambre. Juste avant la sonnerie. Du réveil.
T'es seul dans ta chambre ?
Absolument. Donc il vient quelques minutes avant la sonnerie, et puis voilà. Tous les matins, pendant un jour, deux jours, trois jours, moi je commence, je me tais. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai 13 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? pas bon. C'est des questions et c'est des douleurs. Et moi qui suis un gamin tranquille, vraiment très tranquille, hein, au sens où une règle c'est une règle, l'ordre c'est l'ordre, voilà, pas du tout dans la contestation, pas du tout dans l'affrontement, vraiment je suis peinard. Je deviens très fébrile. Très fébrile. Et l'après-midi du quatrième jour, je m'en souviens, hein, l'après-midi du quatrième jour, ça se passe mal avec un autre garçon. On se chauffe, comme des garçons de 13 ans s'embrouillent, au baby-foot. Et je lui donne une énorme claque plus qu'un coup de poing au visage, dans le visage. Violemment. Très violemment. Avec pour effet un peu ridicule que on a tous des bagues, ou quasiment tous des bagues à l'époque sur les dents, et que sa joue se coince dans ses bagues. Pas bon le résultat. Pas réussi du tout cette affaire. Et je suis convoqué par la directrice. Je me souviens, cette femme assez brute de décoffrage, et elle me reçoit dans son bureau. Bureau de directrice de la colonie de vacances. Et elle me fait la leçon, à juste titre, et elle me dit en fait qu'elle va sans doute me renvoyer pour ce que j'ai fait. Et que je vais rentrer chez moi. Donc là, je reprécise le contexte. Ça fait 4 jours qu'il y a quelqu'un qui s'en prend à moi tous les matins. Et on me donne l'occasion de partir. Et je dis que c'est pas possible. Qu'on peut pas me laisser partir, que mes parents vont m'engueuler, que je peux pas rentrer chez moi. En fait, à ma hauteur d'enfant, je suis en train de dire à cette dame, c'est plus grave si vous me renvoyez que si je reste et que peut-être on va continuer à s'en prendre à moi. Est-ce que je suis clair quand je dis ça?
Oui.
Et en fait, je sens qu'elle a pas envie de me renvoyer. Je sens qu'elle me fait peur et qu'en même temps, elle me laisse... Aujourd'hui, je le vois comme... Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme si elle me posait cette question. Peut-être que c'est de la reconstruction a posteriori, j'en sais rien. Et je finis par lui dire, c'est impossible que vous me renvoyiez. S'il vous plaît, est-ce que je peux rester? Et je reste. Cette dame, elle m'a... Je ne sais pas si elle a conscience qu'il se passe quelque chose. Je ne sais pas si elle a conscience que... à quel point je ne suis pas bien. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Je ne l'ai jamais revue. Je ne sais pas. En tout cas, je ne pars pas. Voilà. Et le lendemain, ce moniteur va revenir, s'en prendre à moi. 5e jour, 6e jour, 7e jour. Et le 7e jour, je fais du tennis et je suis en train de jouer au filet. Et là, mes jambes me lâchent, je tombe, je m'évanouis. Je sais pas comment dire les choses autrement. J'ai plus la force, en fait. Je peux plus tenir. Je tiens plus sur mes jambes. Et je me réveille, je suis porté par quelqu'un qui me mène à l'infirmerie. Et ça s'arrête.
Qu'est-ce qui s'arrête?
Il s'en prendra plus à moi. À partir de là. Voilà.
Est-ce que tu penses que tu le raconteras à tes enfants?
Oui. Oui, je le raconterai à mes enfants. Et je pense qu'il faut quand même que je leur expliquerai sans doute un jour pourquoi on a tant d'attention sur ces sujets-là. Mais parce que c'est aussi notre histoire, d'une certaine manière. C'est pas simplement la mienne.
Alors, Tu parles de ton épouse parce que votre séparation a pris fin à un moment.
Au bout de un peu plus de 3 ans, où moi j'avais, où j'ai pendant ces 3 ans j'ai fait à peu près, j'ai cherché quoi, voilà, j'ai cherché. Et puis il y a un moment où j'ai quand même réussi à retrouver la direction du ciel quoi, au sens où j'ai suivi un peu la lumière quoi. Et on s'est retrouvés. Voilà, comment, moi je là, là, à un moment parfois les choses disent se suffisent à elles-mêmes, se retrouver, c'est ça. Et la route a pu reprendre. Et on a eu une deuxième petite fille. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire, je suis prêt à en parler de tout ça, comme je le fais avec toi aujourd'hui. Pas avant. Parce que je ne voulais pas. Je connais le titre. Le titre.
Ça va bien se passer.
Je voulais pouvoir dire, pour moi, mais pour ceux qui voudraient bien m'écouter, même un instant, qu'il y a quelque chose de possible après. Voilà. Peu importe ce que c'est. On trouve ce qu'on peut, mais on peut quand même reprendre un peu la main. C'était la condition pour que moi je puisse commencer à parler de ça de manière avec un peu d'espoir, quoi. Voilà. C'est pas rien quand même de se dire, tiens, comment on sort de ça en trouvant un peu d'envie, en retrouvant de l'envie. C'est une condition importante, ça. Et c'était ma condition pour en parler.
Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a traversé des épreuves comparables, que ce soit un secret ou pas, mais qu'est-ce que tu lui dirais, toi, qui as fait un long chemin après que ta mémoire soit revenue?
J'espère ne pas être mal compris quand je dis ça, mais je le dis quand même. Je dis accepter d'être égoïste. C'est un passage obligé. Quitte à se couper du monde, quitte à se couper des autres, c'est aussi une manière, même si c'est peu visible a priori, de protéger un peu tout le monde. C'est cette part d'égoïsme qu'il faut accepter pour se reconstituer un petit peu.
Et qu'est-ce que tu dirais au toi de 13 ans qui est rentré de la colo?
Je lui dirais, bon, pas si mal quand même. On a réussi à s'en sortir à peu près, quoi. C'est ça que je lui dirais.